Église en Mayenne.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Église en Mayenne. Aujourd'hui, nous avons un appel urgent qui vous concerne, tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de faire quelque chose pour le Seigneur, pour les autres et pour notre Église. L'aumônerie hospitalière cherche des bénévoles. C'est la chose principale. Maintenant, il faut bien savoir ce que c'est cette aumônerie hospitalière. Donc, nous avons invité trois co-responsables de cette aumônerie qui sont là dans nos studios aujourd'hui. Bonjour Marie Lebras, Pascal Matisse et Maryse Dufeu.
Bonjour. Bonjour.
Donc, vous êtes des co-responsables de l'aumônerie hospitalière et je pense que pour commencer, ce serait bien que vous vous présentez un peu. Dites-nous qui vous êtes et comment vous êtes arrivé dans ce poste. Et aussi, peut-être une petite explication de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'aumônerie hospitalière. Maryse Dufeu, ça fait 12 ans que vous occupez cette place.
Oui. Et toujours très heureuse de l'occuper, car c'est un service très vivant, plein de vie, où il faut toujours s'adapter à la réalité. Alors oui, effectivement, ça fait 12 ans que je suis à l'aumônerie de l'hôpital de Laval. C'est vrai que cette aumônerie regroupe 6 sites. C'est vrai que c'est une... C'est énorme parce que donc on a l'hôpital, le service psychiatrique adulte Lavallois, le SPAL qui est à côté de la Coudre.
Le SPAL qui est...
Voilà, à côté de la Coudre.
Ça veut dire quoi, SPAL ?
Alors, service psychiatrique adulte Lavallois. Ensuite, nous avons 4 EHPAD qui sont rattachés à l'hôpital. L'EHPAD la plus proche, c'est le Rocher Fleury, qui est juste à côté de l'hôpital. Ensuite, il y a le Faubourg Saint-Vénérand. Après, Jeanne Jugand. Et un peu plus loin, les Charmilles a changé.
J'entends que vous avez affaire à des personnes avec des problèmes psychiques, des personnes âgées. J'imagine qu'il y a des différences dans la relation, dans l'approche. Mais en même temps, ce qui les unit tous, c'est peut-être une souffrance. Il y a peut-être aussi quelque chose qu'ils ont tous en commun.
Ben oui, ce sont tous des êtres humains et tout être humain a besoin d'être en relation avec un autre. Effectivement, la diversité de la population qu'on peut côtoyer est une richesse pour notre aumônerie parce que si quelqu'un, un bénévole se présente à nous, il y a pas mal de bénévolat qu'on peut lui proposer. Voilà, il n'y a pas que pour les personnes âgées, point barre, il y a d'autres choses qu'on peut proposer. Puis donc, chaque personne a besoin de relations, parce que même si il n'est pas pratiquant, parce qu'on peut entendre ça, mais non, mais je ne suis pas pratiquant, hein, mais peu importe, on peut se dire bonjour malgré tout.
Vous dites, on peut se dire bonjour, ça veut dire que ce n'est pas tout de suite l'aspect de mission de parler de Dieu. Ce n'est pas ça en premier lieu.
Non, non, parce que la loi nous interdit le prosélytisme, et c'est tout à fait normal. Car à la fin de l'année, on n'a pas un objectif d'évangélisation, de nombre à évangéliser, de personnes à évangéliser.
Convertir.
Ouais, convertir, c'est ça. Donc voilà, puis on a affaire à des personnes humaines avec une histoire particulière et on se doit de respecter cela. Mm-hmm. Voilà. Donc forcément, on s'adapte à la personne que l'on côtoie.
Quand vous entrez dans la chambre d'une personne que vous allez visiter ou rendre visite, quel est le but ? Est-ce que vous avez un but ou pas du tout ? Qu'est-ce que vous avez comme motif pour aller voir cette personne ?
Moi, je dirais que ça dépend de la demande de la personne. Parce qu'en fait, quand on rentre dans une chambre, quand on va voir quelqu'un, eh bien, c'est soit parce qu'elle l'a demandé ou que sa famille l'a demandé ou... Même qu'un personnel soignant, voyant qu'elle n'allait pas bien, nous a appelés pour nous dire voilà, il y a une personne là qui souhaiterait la présence de l'aumônerie. Donc voilà, ça dépend de sa demande. Et parfois, sa demande est précise. Elle dit j'aimerais bien recevoir la communion parce que je suis catholique, je suis là enfermée à l'hôpital et puis je ne peux pas aller à la messe, hein, donc j'aimerais bien recevoir la communion. Parfois, la demande est moins précise, c'est une prière ou une visite. Et à ce moment-là, nous, voilà, comment est-ce que nous, on arrive dans la chambre, on frappe, on rentre, nous, et puis le premier contact se crée. Et là, eh bien, nous devons être vraiment à l'écoute de la personne, à l'écoute de son... de sa gestuelle, à l'écoute de son regard et à l'écoute de sa parole, évidemment. Dans une immense, je dirais, délicatesse et un très grand respect pour elle. On n'impose rien. On est une présence. Et puis, voilà. Les choses se passent petit à petit.
Marie Lebras, vous avez dit aussi avant... quand nous sommes passés à l'antenne, une chose importante, parce que moi, en pensant à ces visites des malades, je me suis rendu compte que j'avais en tête que pour se préparer, on prépare déjà un sort de petit discours, quels sont les sujets. Et vous m'avez dit tout à l'heure, non, c'est pas le discours, c'est pas ce que je dis. En premier lieu, c'est l'écoute qui est importante.
Oui, c'est ça. Et en tout premier lieu, comment on fait pour se préparer ? Ben, nous avons une très jolie prière que malheureusement je ne connais pas par cœur et que je n'ai pas apporté. Mais avant d'aller voir les personnes, d'aller les visiter, quand on est à l'hôpital, on a une chapelle et là c'est un vrai lieu de recueillement. On se met en face de Jésus et on prie le Seigneur et on lui dit que c'est pas nous qui allons visiter la personne. Hein. On n'est que l'instrument de Jésus. C'est magnifique.
Et Jésus qui vous envoie vers des personnes très diverses et variées. Vous n'allez pas seulement voir des catholiques.
Ah ben, tout à fait. Et moi, ce que je trouve passionnant quand on va voir quelqu'un, c'est d'entendre son récit de vie. Mm-hmm. Elle nous raconte ce qu'elle a fait. Bon, une fois, je suis allée voir quelqu'un, une personne, puis elle me dit, je lui dis, est-ce que vous voulez venir à la messe ? Voilà, c'était dans un EHPAD. Et elle me dit, oh non, la messe, non mais non, j'en ai bavé moi, ça y est, j'ai fait mon stock de messe quand j'étais jeune, maintenant je veux plus. Et à partir de là, on a pu, voilà, rentrer dans un dialogue intéressant où elle a un petit peu finalement raconté sa vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que souvent à partir de ce récit de vie, on voit que cette personne, elle a été généreuse, elle a aidé les autres. Enfin, on peut prendre toutes ces petites choses et lui dire finalement, vous avez été comme le bon samaritain dans l'évangile. Est-ce que vous souhaitez qu'on prie ensemble pour toutes ces personnes qu'on a rencontrées, pour vous, pour votre famille dont vous nous avez parlé, voilà. On peut, voilà, suivant le désir de la personne, suivant ce qu'on en ressent, faire monter vers le Seigneur une prière ensemble. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a gentle mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me. D'après ce que vous dites, cette anecdote-là, ça montre une franchise qui est peut-être aussi là. Est-ce que peut-être, quand les personnes sont en souffrance, sont malades, isolées, quand même dans des situations un peu extrêmes de la vie, est-ce qu'il y a aussi plus de franchise ? Est-ce que c'est un contact plus dépouillé, plus direct avec les personnes, peut-être ?
Ça dépend. Ça dépend vraiment de chaque histoire, de chaque personne. Vous avez des personnes qui... Alors, beaucoup dans les personnes âgées, vous avez des personnes qui sont sans filtre. Parce qu'elles vous disent, oh, ben, moi, l'âge que j'ai maintenant, voilà, j'ai gagné le droit de dire ce que je pense. Voilà, je dis ce que je pense. Voilà, ben, moi, comme je dis souvent, ce qui est important, c'est de penser ce qu'on dit. Mais après, voilà, c'est très bien. Et... c'est plus, je dirais, au SPAL où la rencontre avec les personnes est plus particulière. Mm-hmm. Parce que vous avez des personnes qui sont déjà dans leur propre monde, dans leur propre souffrance, et qui ont parfois du mal à reconnecter le monde tel, tel que nous on le voit, voilà, sans dire que c'est nous qui avons la bonne réponse, mais tel que nous on le voit. Et là, c'est vraiment là où il faut accepter la personne telle qu'elle est. Comme disait Maryse et Marie tout à l'heure, quand on rentre, on est face à un être humain, avant tout, avant de savoir quelle religion il est, quelle est son histoire. Et vraiment, quand on est au SPAL particulièrement, ou à l'hôpital vis-à-vis des personnes qui sont en très grande difficulté, en très grande souffrance, la présence du monde n'est plus la même. Mmh. Et là, il faut encore plus rentrer dans le monde, dans son monde, aller la chercher où elle est, et en fonction de ce qu'elle veut donner. Voilà.
Pascal Mathis, vous êtes la plus jeune,
oui,
dans le service.
Dans les deux sens.
Dans les deux sens. Donc, ça fait un mois et demi, je crois, que vous avez.
Absolument.
Vous m'avez
dit. Neuve.
Voilà, toute neuve. Donc, vous pouvez, de votre point de vue de toute neuve, peut-être nous parler un peu de ces débuts. Comment avez-vous trouvé ce poste? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Et comment était ce début dans ce service?
Alors moi, c'est Notre-Dame de Pontmain qui m'a amenée à l'aumônerie. Je visitais Pontmain avec de la famille et je vois que Pontmain cherchait son intendant. Donc je me dis, oh tiens, c'est rigolo, il cherche un intendant. Je regarde la description de poste, mais comme ça, parce que ce n'est pas du tout mes compétences. Et en rentrant chez moi, j'en parlais avec mon mari, puis il me dit, tiens, je suis sûre que le 2-16 propose des offres d'emploi. Donc je regarde et je tombe sur un descriptif de poste, donc l'aumônerie, qui m'a accrochée, parce que je me suis dit, tiens, mes compétences professionnelles, personnelles, ma vie d'avant peut aider.
Vous êtes psychologue.
Voilà, de formation initiale.
Oui.
Et mais je tiens à dire que c'est pas nécessaire au fait d'être aumônier.
Mais ça aide peut-être.
Mais oui, on va pas se cacher que ça aide un petit peu quand même. Mais donc voilà, et puis je me suis dit, tiens, c'est vraiment chouette. On parlait de prière, on parlait de foi, d'église, des choses qui, moi, me parlaient. Donc, je me suis dit, allez, je tente ma chance. Et puis, voilà.
Et qu'est-ce qui vous a attendu, alors? Vous êtes arrivé, vous avez postulé, on vous a pris. Quels étaient les premiers pas dans ce service?
Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes collègues sont merveilleuses.
Merci.
J'ai eu un accueil comme jamais. Voilà. Elles ont été à mon écoute. Vraiment, elles m'ont portée, elles m'ont aidée, jamais un refus face à mes questions. Voilà, vraiment, l'une comme l'autre m'ont apporté plein de choses, m'ont beaucoup aidée.
Quels étaient vos problèmes, vos questions, ou où est-ce que vous aviez besoin de soutien?
Alors, comme toute personne qui commence, je pense que j'avais besoin de ne pas être seule. Mm-hmm. Voilà, vraiment, c'était mon inquiétude, pourvu que je ne sois pas seule. Et effectivement, Maryse et Marie m'ont tout de suite rassurée et m'ont pris sous leur aile et m'ont amenée avec elles pour donner la communion. Donc, j'ai fait ma première fois avec Marie, visiter toutes les EHPAD avec Maryse. Voilà, vraiment, je n'ai jamais été seule dans mes débuts. Mm-hmm. Voilà, après, dans la pratique, il se trouve que par moment, c'est... Voilà, on est obligé d'être seule aussi par moment.
Ouais.
Mais en tout cas, je n'ai pas débuté seule.
D'accord.
Voilà, et ça, c'était vraiment une grande question. Et puis d'être formée aussi, parce qu'on a beau être chrétien, on a beau être catholique, on a beau prier, on a beau être avoir sa foi, il n'empêche que de là à passer le pas, c'est compliqué.
Donc, vous avez reçu une formation?
J'ai commencé mes formations avant même de commencer.
D'accord.
Le travail, voilà. Ouais. Et c'est un parcours qu'on propose aux bénévoles.
Oui, c'est ce que vous avez dit au début. Donc, on n'est pas lâché dans la nature. On a des formations en permanence, même bénévoles.
Tout à fait.
Et à quoi est-ce qu'on est formé? En quoi consistent ces formations? Qu'est-ce qu'on apprend ou qu'est-ce qu'on fait?
Alors, nous avons... Alors, on regarde beaucoup les formations qui sont proposées au diocèse. On a eu une formation avec Don Martin Troupeau sur le sacrement des malades, parce que c'est vrai que c'est un des sacrements qui est très souvent donné à l'hôpital. Donc c'est important qu'on ait toujours un regard de l'Église sur ce sacrement. Et c'est vrai qu'aussi on a beaucoup de chance parce qu'on a le père Paul Trocherie qui est notre prêtre accompagnateur. Et c'est très important qu'on l'ait parce que quand on a des questions, sacramentelle, sur une prière, style un mot qu'il faut peut-être changer, parce que quand on le lit, ça va, enfin, c'est un peu dur et tout ça. Et ben, il est là pour nous dire, non, non, vous inquiétez pas, vous êtes dans les clous, donc allez-y. Et ça, c'est quand même un grand réconfort. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme formation ? On a eu qu'est-ce que croire ? Donc, ça touche beaucoup la théologie ou la psychologie de la personne âgée. Donc, en fait, c'est très varié. Ça peut être des formations liées aux personnes que l'on rencontre ou des formations théologiques.
On a eu une formation aussi magnifique de sœur Anne Lécu sur la souffrance.
Pascal, vous avez dit que pour vous, c'était très important de ne pas vous sentir seule au début. Et je pense que c'est peut-être une crainte que peuvent avoir des personnes qui songent à éventuellement s'engager dans ce service. Donc, on peut déjà les rassurer de ce côté-là. On ne va pas les laisser seules. Il y a donc toujours quelqu'un à leur côté.
Absolument.
Vous êtes là pour répondre à des questions, des craintes et tout ça. Il y a des formations et vous avez aussi un petit livret qu'on a comme support dans un premier temps, même pour toujours.
Tout à fait. Puis en plus, alors on peut avoir peur aussi parce que c'est vrai qu'on passe un contexte sanitaire qui nous suit encore. C'est vrai que le Covid a bouleversé énormément de choses. Donc, on peut entendre que des... Parce que c'est vrai que pour passer la porte de l'hôpital et des EHPAD, c'est vrai qu'il faut le pass sanitaire. Ça, c'est très important. Ça, l'hôpital nous fait entièrement confiance pour veiller à que nos bénévoles aient le pass sanitaire. Et c'est vrai qu'avant, on ne portait pas le masque quand on allait visiter. Maintenant, il faut mettre le masque, la distanciation sociale. Et tout ça, ça peut faire des freins aux bénévoles. C'est pour ça que c'est hyper important que l'on accompagne les bénévoles sur leur premier pas, qu'on ne les lâche pas. Parce que tant qu'on ne les sent pas bien, on les suit. Mais voilà. Et puis même quand on a débuté aussi, même quand on est des bénévoles confirmés après plusieurs années de service, il est important que nous continuions à les appeler. C'est vrai que, par exemple, les bénévoles de l'aumônerie de l'hôpital, c'est vrai que pendant 2 ans, ils n'ont pas pu mettre les pieds à l'hôpital parce que, à cause du plan blanc. Et bien, malgré tout, on a en fait transformé leur mission. Chaque fois qu'on était appelé pour une personne qui s'appelait par exemple, je ne sais pas, Pierre, on envoyait un message aux bénévoles de l'aumônerie en disant « S'il vous plaît, nous sommes appelés pour Pierre, priez pour lui. » Et donc, on a des retours, on avait des petits retours SMS en disant « Oui, Maryse, nous prions pour lui et tout ça. » Et donc, on a essayé de vraiment transformer leur mission parce qu'on se disait « C'est dommage, ils sont pénalisés parce qu'ils ne peuvent pas mettre les pieds à l'hôpital. » Donc, faut faire quelque chose. Et même, ce que je voulais dire, c'est que pour les bénévoles en EHPAD, pour ceux qui brancardent, qui vont chercher des personnes pour les célébrations, il est important que qu'on rentre en relation avec eux, qu'on leur dise comment ça se passe, comment tu te sens. Il faut que les bénévoles se sentent bien. Et ça, c'est aussi une mission très importante pour nous.
Maryse Dufeu, vous avez dit que ça fait 12 ans maintenant que vous faites ça et vous dites que c'est toujours avec beaucoup de joie. Ça m'a touchée d'entendre ça, la joie, parce que vous êtes quand même dans des lieux où on rencontre la souffrance, la mort, la tristesse, et ça vous apporte de la joie.
Oui, parce qu'on rencontre la vie, et la vie peut être porteur de joie aussi. Quand on fait dans les EHPAD de la chorale et qu'on met des chants comme « que ma bouche chante ta louange », je vous assure que c'est pas triste. Quand on tape des mains, c'est pas triste. Et faut vraiment avoir un regard apaisant. Parce que c'est vrai que si on n'est pas bien, il faut mieux pas faire de visite. Ça, c'est très important aussi. Il faut s'écouter. Surtout dans l'aumônerie de la santé, si on n'est pas bien, on ne peut pas faire de bonnes visites. Donc, il est important que pour visiter, on se sente bien, en paix. Et là, de toute façon, on ne peut pas jouer. Hein. Les personnes vont le sentir si vous n'êtes pas bien ou pas. Une fois, je me souviens, c'était une chorale Et j'étais toute seule parce que mes collègues étaient en vacances à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais la faire. Ouais. Mais il n'y avait pas de bénévole à ce moment-là. Eh bien, il y a une résidente qui me regarde, qui me fait, mais Maryse, vous n'êtes pas fatiguée? Ah non, tout va bien, tout va bien. Non, mais Maryse, c'est vrai? Vous n'êtes pas fatiguée? Bon, oui, un petit peu. On peut pas. Non, voilà, on joue franco, on est franco avec les personnes qu'on rencontre. Les personnes Alzheimer, si on n'est pas bien, on ne peut pas rentrer en relation avec elles. Donc, c'est important qu'on sache comment on vit, comment on est, si on se sent bien ou pas. Si on ne se sent pas bien, il faut mieux faire du bureau. Si on est bien, bah, c'est cadeau.
Et il y a aussi quelque chose d'extraordinaire pour finalement voir comment on sent et être bien. C'est que ce soit entre aumôniers ou avec les bénévoles, on a des temps de relecture de ce qu'on a fait. On peut déposer dans l'oreille des autres finalement ce qu'on vient de vivre, si ça a été difficile. Et on propose aux bénévoles qui sont allés faire des visites, porter la communion, de venir nous dire comment ça s'est passé. Et voilà, si ça a été dur, ça permet vraiment de lâcher tout ça et de se sentir mieux après aussi.
Chers auditeurs, vous entendez, on est en train de parler de l'aumônerie hospitalière qui cherche urgentement de bénévoles. Si vous vous sentez appelé, si vous sentez que ça vous intéresse, déjà, dites-nous, les trois ici, comment peut être un engagement? Est-ce que je prévois combien de temps? Comment est-ce que ça se passe?
Alors là, c'est très simple. Ça dépend du temps que chacun peut donner. Nous, si un bénévole, mettons, suite à cette émission, une personne nous appelle, eh bien, on va la rencontrer, on va parler avec elle, et puis on va peut-être lui expliquer un petit peu les différentes missions qui sont proposées à l'aumônerie. Et voilà, elle va nous dire ensuite le temps qu'elle peut y consacrer. Ça peut être une fois par mois ou une fois par semaine. Voilà.
Et c'est à chaque fois une matinée, un après-midi, ou ça peut être aussi quelques heures? Qu'est-ce qu'il faut compter comme?
Alors, c'est plus les après-midi, parce que le matin, dans les EHPAD ou l'hôpital, c'est les soins. Donc, c'est plus effectivement les après-midi.
D'accord. Mm. Donc, il faudrait avoir au moins un après-midi. Il faut avoir le pass sanitaire.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il faut avoir sinon?
Aimer prier. Mm-hmm. Être à l'aise avec la prière.
Et la prière, ça joue un rôle important dans votre mission?
Je dirais que c'est le...
Fondamental.
Le noyau.
Ah oui.
Oui, le noyau.
Votre prière personnelle, la oui. prière avec la personne
oui.
aussi.
Oui. Mm-hmm. Parce que souvent, notamment en EHPAD, ce qui revient le plus souvent, c'est réciter un Notre Père ou un Je vous salue Marie. Donc en tant qu'aumônier ou en tant que bénévole, vous pouvez réciter facilement 10 Notre Père dans la journée. Voilà. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec ça. Il ne faut pas avoir peur de réciter ses prières, d'y croire. Voilà, moi, je dirais que c'est vraiment la prière, le noyau.
Et si une personne veut vous contacter, elle fait comment?
Elle appelle l'hôpital de Laval et demande le service aumônerie.
Parce qu'en fait, vous êtes des salariés de l'hôpital.
Oui. Et nous avons un téléphone d'astreinte, on appelle ça un téléphone d'astreinte, auquel nous répondons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, enfin tout le temps.
D'accord. Donc vous faites un appel pour avoir des bénévoles?
Oui. Alors non seulement sur Laval, mais aussi sur toute la Mayenne, dans les hôpitaux de Château-Gontier, de Mayenne, d'Ernée, de Vilaine-la-Juhel, de Cran. Qu'est-ce que j'oublie encore? Peut-être un autre. Enfin, voilà, sur tous les lieux où il y a des hôpitaux, il y a des aumôniers qui ne peuvent pas travailler seuls, mais avec leur équipe de bénévoles, afin de visiter un maximum de personnes.
Et si maintenant il y a une personne qui hésite, qui se dit oh, ça serait peut-être pas mal, mais je ne sais pas, vous lui dites quoi?
D'appeler.
N'hésitez pas.
Toutes les questions sont intelligentes, donc d'appeler. Et c'est pas parce que vous allez nous voir que c'est figé.
C'est vrai qu'on peut revenir sur son envie à tout moment.
Oui, voilà,
c'est pas.
Voilà.
Donc, oser faire le premier pas.
Oui, exactement.
Dans la confiance et dans la joie.
Exactement, oui, oui. Oui.
Merci beaucoup, Marie merci. Lebras, Pascal Matisse et Maryse Defeu d'être venus. Merci. Malheureusement, le temps est déjà fini. On aurait certainement encore des choses à dire. On vous souhaite que suite à cette émission-là et les autres efforts que vous allez faire pour recruter du monde, vous allez avoir un grand nombre de bénévoles. Et merci pour tout ce que vous faites.
Merci.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir. Au revoir.